Philos amourons. Chaque semaine, je vous lis quelques chapitres de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes pour méditer sur ce qui nous bouleverse tous, l'amour. Roland Barthes a écrit en 77 son ouvrage sous une forme de dictionnaire dans lequel il décortique chacun des aspects du sentiment amoureux. Il s'appuie sur des romans, notamment Les souffrances du jeune Werther de Goethe et La recherche du temps perdu de Proust, mais aussi sur des philosophes, des psychologues et sur son propre vécu. Cette semaine, souvenir, suicide, tel, tendresse. Souvenir. Remémoration heureuse et ou déchirante d'un objet, d'un geste, d'une scène liée à l'être aimé et marquée par l'intrusion de l'imparfait dans la grammaire du discours amoureux. Nous avons eu un magnifique été et je suis souvent dans le verger de Lotte, perché sur les arbres, la longue perche du cueille-fruit à la main pour dépouiller de leurs poires les branches du faîte. Elle, en bas, les reçoit à mesure que je les lui envoie. Werther raconte, parle au présent. Mais son tableau a déjà vocation de souvenir. À voix basse, l'imparfait murmure derrière ce présent. Un jour, je me souviendrai de la scène. Je m'y perdrai au passé. Le tableau amoureux, à l'égal du premier ravissement, n'est fait que d'après-coup. C'est l'anamnèse, qui ne retrouve que des traits insignifiants, nullement dramatiques. Comme si je me souvenais du temps lui-même et seulement du temps. C'est un parfum sans support, un grain de mémoire, une simple fragrance. Quelque chose comme une dépense pure, telle que seul le haïku japonais a su la dire, sans la récupérer dans aucun destin. Il y avait, pour attraper les figues hautes du jardin, un long cueille-fruit, fait d'un bambou et d'un entonnoir de fer blanc cisaillé en fleurons qu'on y avait ajusté. Ce souvenir d'enfance fonctionne comme un souvenir amoureux. Les étoiles brillaient, dans Tosca. Jamais plus ce bonheur ne reviendra tel quel. L'anamnèse me comble et me déchire. L'imparfait est le temps de la fascination. Ça a l'air d'être vivant et pourtant ça ne bouge pas. Présence imparfaite, mort imparfaite. Ni oubli, ni résurrection. Simplement le leurre épuisant de la mémoire. Dès l'origine, avide de jouer un rôle, des scènes se mettent en position de souvenir. Souvent, je le sens, je le prévois, au moment même où elles se forment. Ce théâtre du temps est le contraire même de la recherche du temps perdu de Proust, car je me souviens pathétiquement, ponctuellement et non philosophiquement discursivement. Je me souviens pour être malheureux, heureux, non pour comprendre. Je n'écris pas. Je ne m'enferme pas pour écrire le roman énorme du temps retrouvé. Suicide. Dans le champ amoureux, l'envie de suicide est fréquente. Un rien la provoque. Pour la moindre blessure, j'ai envie de me suicider. Quand on le médite, le suicide amoureux ne fait pas acceptation de motif. L'idée en est légère. C'est une idée facile, simple. Une sorte d'algèbre rapide dont j'ai besoin à ce moment-là de mon discours. Je ne lui donne aucune consistance substantielle, ne prévois pas le lourd décor, les conséquences triviales de la mort. À peine sais-je comment je me suiciderai. C'est une phrase, seulement une phrase que je caresse sombrement, mais dont un rien va me détourner. Et l'homme qui pendant trois quarts d'heure venait de songer à terminer sa vie, à l'instant même montait sur une chaise pour chercher dans sa bibliothèque le tarif des glaces de Saint-Gobain, chez Stendhal, dans Armance. Parfois, virement éclairée par quelques circonstances futiles et emportée par le retentissement qu'elle provoque, je me vois tout d'un coup prise au piège, immobilisée dans une situation, un site impossible. Il n'y a que deux issues, ou bien. Et elles sont toutes deux également verrouillées. Des deux côtés, je ne peux que me taire. L'idée de suicide, alors, me sauve, car je puis la parler, et je ne m'en prive pas. Je renais et colore cette idée des couleurs de la vie, soit que je la dirige agressivement contre l'objet aimé, chantage bien connu, soit que je m'unisse fantasmatiquement à lui dans la mort. Je descendrai dans la tombe pour me blottir contre toi. De Haim dans Lyrisch's Intermezzo. Après en avoir discuté, les savants concluent que les animaux ne se suicident pas. Tout au plus, certains, chevaux, chiens, ont-ils l'envie de se mutiler. C'est cependant à propos de chevaux que Werther fait entendre la noblesse qui marque tout suicide. On parle d'une noble race de chevaux qui, lorsqu'ils sont terriblement échauffés, surmenés, ont l'instinct de s'ouvrir eux-mêmes une veine, d'un coup de dent, pour respirer plus librement. C'est ainsi qu'il en est de moi, bien souvent. Je voudrais m'ouvrir une veine pour m'assurer la liberté éternelle. Niaiserie de Gide. J'achève de relire Werther, non sans irritation. J'avais oublié qu'il mettait tant de temps à mourir. Ce qui est tout à fait faux. Cela n'en finit pas et l'on voudrait enfin le pousser par les épaules. À 4 ou 5 reprises, ce que l'on espérait, son dernier soupir est suivi d'un autre plus ultime encore. Les départs frangés m'exaspèrent. Écrit Gide. Gide ne sait pas que dans le roman d'amour, le héros est réel, parce qu'il est fait d'une substance absolument projective en quoi se recueille tout sujet amoureux. Et que ce qu'il souhaite là, c'est la mort d'un homme. C'est ma mort.
Thank you. murmure.
Je suis ta limite et ton moteur de vie, car ta référence au dépassement. Je suis l'inexorable, l'aboutissement désespéré, l'échelle de ta vanité. Je suis l'ultime crainte des six autres. Je suis la dernière voie sur laquelle tu chemineras. Je suis ton horizon, ta malédiction.
Appelé sans cesse à définir l'objet aimé et souffrant des incertitudes de cette définition, le sujet amoureux rêve d'une sagesse qui lui ferait prendre l'autre tel qu'il est, exonéré de tout adjectif. Étroitesse d'esprit. En fait, je n'admets rien de l'autre, je ne comprends rien. Tout ce qui, de l'autre, ne me concerne pas me paraît étranger, hostile. J'éprouve alors à son égard un mélange d'effroi et de sévérité. Je crains et je réprouve l'être aimé dès lors qu'il ne colle plus à son image. Je suis seulement libéral, un dogmatique dolent en quelque sorte. Industrieuse, infatigable, la machine à langage qui bruit en moi, car elle marche bien, fabrique sa chaîne d'adjectifs. Je couvre l'autre d'adjectifs, j'égrène ses qualités, sa qualitas. À travers ces jugements chatoyants, versatiles, une impression pénible subsiste. Je vois que l'autre persévère en lui-même. Il a lui-même cette persévérance à quoi je me heurte. Je m'affole à constater que je ne puis le déplacer, quoi que je fasse, quoi que je dépense pour lui. Il ne renonce jamais à son propre système. Je ressens contradictoirement l'autre comme une divinité capricieuse qui change sans cesse d'humeur à mon égard, et comme une chose lourde, invétérée. Cette chose vieillira telle qu'elle est, et c'est ce dont je souffre. Ou encore, je vois l'autre dans ses limites, ou enfin, je m'interroge. Y a-t-il un point, un seul, sur lequel l'autre pourrait me surprendre ? Ainsi, curieusement, la liberté de l'autre à être lui-même, je la ressens comme un entêtement pusillanime. Je vois bien l'autre comme tel, je vois le tel de l'autre, mais dans le champ du sentiment amoureux, ce tel m'est douloureux, parce qu'il nous sépare et que, une fois de plus, je me refuse à reconnaître la division de notre image, l'altérité de l'autre. Ce premier tel est mauvais, parce que je laisse en sous-main, comme un point interne de corruption, un adjectif. L'autre est entêté. Il relève encore de la qualitas. Il faut que je me débarrasse de toute envie de bilan. Il faut que l'autre devienne à mes yeux pur de toute attribution. Plus je le désignerai, moins je le parlerai. Je serai semblable à l'infants qui se contente d'un mot vide pour montrer quelque chose. Ta, da, tat, dit le sanskrit. Tel, dira l'amoureux. Tu es ainsi, précisément ainsi. En te désignant comme tel, je te fais échapper à la mort du classement. Je t'enlève à l'autre, au langage. Je te veux immortel. Tel qu'il est, l'être aimé ne reçoit plus aucun sens, ni de moi-même, ni du système dans lequel il est pris. Il n'est plus qu'un texte sans contexte. Je n'ai plus besoin ou envie de le déchiffrer. Il est en quelque sorte le supplément de sa propre place. S'il n'était qu'une place, je pourrais bien un jour le remplacer. Mais le supplément de sa place sont tels, je ne puis rien lui substituer. Dans les restaurants, sitôt le dernier service fini, on prépare les tables, à neuf, pour le lendemain. Même nappe blanche, même couvert, même salière. C'est le monde de la place, du remplacement. Pas de tel. J'accède alors, fugitivement, à un langage sans adjectif. J'aime l'autre non selon ses qualités, comptabilisées, mais selon son existence. Par un mouvement que vous pouvez bien dire mystique, j'aime non ce qu'il est, mais qui il est. Le langage dont le sujet amoureux proteste alors, contre tous les langages déliés du monde, est un langage obtus. Tout jugement est suspendu. La terreur du sens est abolie. Ce que je liquide dans ce mouvement, c'est la catégorie même du mérite. De même que le mystique se rend indifférent à la sainteté, qui serait encore un attribut, de même, accédant au tel de l'autre, je n'oppose plus l'oblation au désir. Il me semble que je puis obtenir de moi de désirer l'autre moins et d'en jouir plus. L'ennemi noir du tel, c'est le potin, fabrique immonde d'adjectifs. Et ce qui ressemblerait le mieux à l'être aimé, tel qu'il est, ce serait le texte, sur lequel je ne puis apposer aucun adjectif, dont je jouis sans avoir à le déchiffrer. Ou encore, tel, n'est-ce pas l'ami, celui qui peut un moment s'éloigner sans que son image s'abîme? Nietzsche écrit dans Amitié d'astres : Nous étions amis et nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Mais il est bon qu'il en soit ainsi, et nous ne chercherons pas à nous le dissimuler ni à l'obscurcir comme si nous devions en avoir honte. Tels deux navires dont chacun poursuit sa voie et son but propre, ainsi, sans doute, nous pouvons nous croiser et célébrer des fêtes entre nous comme nous l'avons déjà fait. Et alors les bons navires reposaient côte à côte dans le même port, sous le soleil, si calmes qu'on eût dit qu'ils fussent déjà au but et n'eussent eu que la même destination. Mais ensuite, l'appel irrésistible de notre mission nous poussait à nouveau loin l'un de l'autre, chacun sur des mers, vers des parages, sous des soleils différents. Peut-être pour ne plus jamais nous revoir. Peut-être aussi pour nous revoir une fois de plus, mais sans plus nous reconnaître. Des mers et des soleils différents ont dû nous changer. Tendresse. Jouissance. Mais aussi évaluation inquiétante des gestes tendres de l'objet aimé. Dans la mesure où le sujet comprend qu'il n'en a pas le privilège. Ce n'est pas seulement besoin de tendresse, c'est aussi besoin d'être tendre pour l'autre. Nous nous enfermons dans une bonté mutuelle. Nous nous maternons réciproquement. Nous revenons à la racine de toute relation, là où besoin et désir se joignent. Le geste tendre dit « Demande-moi quoi que ce soit qui puisse endormir ton corps. Mais aussi n'oublie pas que je te désire un peu, légèrement, sans vouloir rien saisir tout de suite. » Le plaisir sexuel n'est pas métonymique. Une fois pris, il est coupé. C'était la fête, toujours close par levée temporaire, surveillée de l'interdit. La tendresse, au contraire, n'est qu'une métonymie infinie, insatiable. Le geste, l'épisode de tendresse, l'accord délicieux d'une soirée, ne peut s'interrompre qu'avec déchirement. Tout semble remis en cause. Retour du rythme, vritri, éloignement du nirvana. Vritri, en zen, pour le bouddhisme, c'est le train d'onde, le processus cyclique. Vritri est douloureux. Seul peut y mettre fin le nirvana. Si je reçois le geste tendre dans le champ de la demande, je suis comblée. Ce geste n'est-il pas comme un condensé miraculeux de la présence ? Mais si je le reçois, et ce peut être simultané, dans le champ du désir, je suis inquiète. La tendresse, de droit, n'est pas exclusive. Il me faut donc admettre que ce que je reçois, d'autres le reçoivent aussi. Parfois, le spectacle même en est donné. Là où tu es tendre, tu dis ton pluriel.
Thank you.
forsaken kings and queens, crying child, lonely joker, misunderstood poet, tired star, a lost melody, forgotten tender words, emptiness in a creator's mind, just a blank sheet of paper. They all need a fairy, they all need a muse, they all need a fairy, they all need a muse, whispering how it should be, and tying the noose. They all need a fairy, they all need a muse.
C'était Philos Amourons, lecture de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Cette semaine, nous avons écouté les chapitres Souvenirs, Suicide, Tel et Tendresse. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission avec Union, Vérité et Vouloir saisir. Nous avons écouté deux morceaux de Philo, Les Sept Voix, donc de Philo et Vava, et Muse, de Philo. À la lecture, Janciane. À la semaine prochaine.